Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Stéphane Herman, qui est PUPH de réanimation et qui travaille dans le service de médecine intensive réanimation du CHU de Tours. Il participe aussi à l'équipe d'aérosol thérapie et de biomédicaments à visée respiratoire au centre d'études des pathologies respiratoires. Et c'est à ce titre-là que nous l'invitons aujourd'hui pour discuter de l'aérosol thérapie chez le patient ventilé. Et tout de suite, la première question, quel est le rendement d'un aérosol chez un patient ventilé ?
Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, le rendement, c'est la quantité de médicaments qui va se déposer dans le poumon par rapport à ce qui a été mis dans le nébuliseur. Et donc, effectivement, c'est une fraction, 5, 10, 15, 30, 50%. Un autre point est de savoir quelles molécules on veut aérosoliser et selon les molécules, on vise des rendements plus ou moins importants. Par exemple, pour des bronchodilatateurs, il n'y a pas besoin d'avoir un rendement très important et on a une efficacité même avec des quantités très faibles. En revanche, pour des antibiotiques, là, la concentration dans le poumon est vraiment un facteur clé. Et là, on va avoir envie d'avoir des rendements élevés, 30-40% avec des techniques optimisées. C'est toujours vu comme une limite. On oublie que quand on donne un médicament par voie orale ou par voie intraveineuse, bien, c'est également qu'une fraction qui va se déposer dans le poumon. Et donc, la même limite s'applique à toutes les techniques d'administration. Tout ne va pas dans le poumon, hélas, mais probablement suffisamment pour beaucoup de médicaments.
Donc, il y a manifestement des rendements très différents. Et quelles sont alors les meilleures techniques d'administration d'un aérosol chez le patient ventilé ?
Eh bien, tout dépend de la molécule qu'on veut administrer. La meilleure technique, c'est d'abord celle qu'on maîtrise. Et donc, moi, je conseille de ne pas avoir trop de techniques différentes et de se poser au sein du service pour protocoliser une technique. Alors, les molécules qui sont nébulisées, en premier lieu, c'est les bronchodilatateurs. Et donc là, il y a deux techniques qui peuvent se discuter, soit l'usage d'aérosol doseur avec une chambre qu'on place dans le circuit de ventilation. Et donc, on active l'aérosol doseur pendant l'insufflation. Et pour prendre le plus fréquent, qui est le salbutamol, et bien quand on fait 4 activations de 100 microgrammes synchronisées avec l'insufflation, et bien c'est bien documenté que ça marche. Ça, c'est avec des aérosols doseurs, mais on peut également utiliser des nébuliseurs. Et à ce moment-là, pour les bronchodilatateurs, je dirais que à peu près la plupart des nébuliseurs et un peu quelle que soit la position dans le circuit et les méthodes d'optimisation, on a une efficacité qui est tout à fait bonne puisque l'index thérapeutique de ces molécules est très très large et donc on n'a pas besoin d'avoir des rendements très élevés et finalement avec 5-10% ça suffit. Donc quoi qu'on fasse, il n'y a pas de souci et donc n'importe quel type de nébuliseur est fonctionnel. Alors, il y a quand même des aspects de sécurité qui sont très importants. Et en premier lieu, c'est la protection du ventilateur et de la branche expiratoire. En effet, il y a toujours des particules d'aérosol qui vont être exhalées, un peu d'aérosol généré pendant l'expiration qui va partir dans la branche expiratoire. Et ça peut induire des dysfonctionnements de la valve expiratoire et du ventilateur. Et il y a des accidents graves qui ont été décrits. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Dans tous les cas, il faut, d'un point de vue technique, mettre un filtre sur la branche expiratoire avant le ventilateur. Et il faut le changer régulièrement puisqu'il va avoir tendance à s'obstruer, probablement de le changer peut-être après chaque aérosol ou après chaque deuxième aérosol. Donc ça, c'était pour les bronchodilatateurs. Les mêmes précautions de sécurité, évidemment, s'appliquent pour les antibiotiques. Mais pour les antibiotiques, là, on a vraiment des objectifs de rendement qui sont importants. Et a fortiori, si on veut, par exemple, traiter des pneumonies et avoir un dépôt distal de grosses masses d'antibiotiques. Et donc là, il y a quelques points d'optimisation importants. Le premier, c'est de se placer le nébuliseur dans la branche inspiratoire en amont du Y. Et dans les études, c'est 15 à 40 cm. Et le deuxième point important, c'est d'adapter les réglages du ventilateur pour favoriser le transport de l'aérosol et éviter qu'il se dépose dans le circuit de ventilation. Et donc, les réglages à favoriser, c'est de réduire le débit inspiratoire et d'allonger le temps inspiratoire. Voilà. Donc ça, c'est les meilleures façons pour optimiser le rendement. Alors, il y a toujours la question de quel nébuliseur dois-je utiliser quand j'utilise un nébuliseur. Les antibiotiques, évidemment, n'existent pas sous forme d'aérosol doseur, hein, donc on est obligé d'utiliser un nébuliseur. Il y a trois types de nébuliseurs, les nébuliseurs pneumatiques, les nébuliseurs ultrasoniques et les nébuliseurs à tamis vibrant ou à membrane perforée. Ces systèmes sont à peu près équivalents dans la taille des gouttelettes et les caractéristiques de l'aérosol produit. Néanmoins, les nébuliseurs ultrasoniques et encore plus les nébuliseurs à tamis vibrant ont un volume résiduel très très faible. Donc quasi l'ensemble du médicament est nébulisé, alors que pour les nébuliseurs pneumatiques, une grande partie du médicament reste dans le nébuliseur à la fin de la nébulisation et donc est perdue. Donc, ne serait-ce que pour cet argument-là, il y a une masse plus importante de médicaments avec les ultrasoniques ou les membranes vibrantes. En ce qui concerne la ventilation mécanique, un gros avantage à nouveau de ces nébuliseurs ultrasoniques ou à membrane vibrante, c'est qu'ils n'interfèrent pas avec les réglages du ventilateur et le volume courant délivré. Et donc pour cette raison-là, ils sont plus pratiques et plus simples d'utilisation. Si jamais on souhaite utiliser un nébuliseur pneumatique, il faut un gaz qui l'alimente. Et là, je conseillerais à ce moment-là, si on n'a pas d'autres systèmes de nébulisation, d'utiliser un nébuliseur pneumatique qu'on relie au ventilateur et donc un système intégré qui permet de contrôler le volume courant et d'éviter de s'exposer, enfin d'exposer le patient à des volumes courants non contrôlés, ce qui arriverait si on se mettait sur les gaz muraux, ce qui vraiment à mon avis est une technique à abandonner de nos jours.
Merci beaucoup. Alors, on parle beaucoup d'antibiotiques, lesquels peuvent être administrés par voie inhalée et quelle est leur efficacité ?
Alors, historiquement, les antibiotiques inhalés ont d'abord été étudiés chez les patients souffrant de mucoviscidose et c'est les aminoglycosides qui ont été le plus étudiés et la tobramycine, historiquement, qui avait l'AMM en tout premier. Alors, pourquoi ces molécules-là ? Eh bien, parce que le rationnel pharmacocinétique pour les antibiotiques inhalés, c'est de favoriser des antibiotiques concentration dépendants, c'est-à-dire qu'en les inhalant, on va avoir une concentration pulmonaire très élevée et donc une efficacité concentration dépendante avec les aminoglycosides et idéalement qu'un seul aérosol par jour, puisque c'est quand même une technique un petit peu complexe à mettre en œuvre et on imagine bien qu'avec par exemple des bêta-lactamines, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais on serait obligé de faire 3, 4, 6 administrations par jour. C'est évidemment beaucoup plus compliqué techniquement. Donc plutôt des antibiotiques concentration dépendants. Les aminosides, ce qui a été le plus étudié en ventilation mécanique, en réanimation, c'est l'amikacine. Donc voilà, première classe d'antibiotiques. Et puis, autre antibiotique qui vraiment a un intérêt maintenant pratique pour un certain nombre de malades, c'est la colistine. On est confronté mondialement à une épidémie de bactéries multirésistantes et avec un certain nombre de bactéries uniquement sensibles à la colistine et donc un regain d'intérêt pour cette molécule et un certain nombre de données qui montrent que l'administration inhalée est efficace et probablement associée à moins de toxicité, en particulier rénale. Alors maintenant, quelle efficacité on peut attendre de ce traitement antibiotique inhalé ? Je ne veux pas vous décevoir, mais on n'a pas de données randomisées de très grande envergure qui montreraient des bénéfices en termes de réduction de mortalité et de qualité de vie à 10 ans. Néanmoins, il y a plusieurs études qui documentent une efficacité dans le traitement des PAVR. Par exemple, un travail de Chin Lu qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, qui a randomisé des patients souffrant d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique pour un traitement inhalé exclusif, donc pas de traitement systémique ou un traitement systémique standard, et le devenir des patients était identique dans les deux groupes, ce qui montre bien qu'on peut traiter une pneumonie avec des antibiotiques inhalés. Donc, quelle efficacité en attendre ? Très probablement que ça marche. Et donc c'est envisageable. Maintenant, est-ce qu'il y a des indications cliniques au quotidien ? Elles sont probablement pas très fréquentes, mais lorsqu'on a une colonisation bronchique ou une infection pulmonaire à des germes uniquement sensibles à la colistine ou aux aminosides, eh bien ça peut être raisonnable d'envisager ce type de traitement, soit seul, soit en combinaison d'un traitement intraveineux chez ces patients qui sont dans des situations d'impasse thérapeutique relative. Eh bien, il n'y a pas de raison de penser que ça ne serait pas efficace. Il y a beaucoup de données de pharmacocinétique qui montrent qu'on aura des concentrations élevées au niveau pulmonaire et donc une efficacité thérapeutique très certaine.
Alors, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces données très intéressantes. Est-ce que tu peux nous signaler, nous indiquer les trois articles que tu juges incontournables sur ce sujet ?
Eh bien, le papier que je viens de citer à l'instant me semble tout à fait intéressant. Hein. Donc, c'est un papier de Chin Lu publié dans Anesthésiologie en 2012 et qui est un peu un papier pivot sur cette thématique. Après, il y a un auteur qui est Rajiv Dant qui a écrit un très grand nombre de mises au point et de revues de littérature sur les antibiotiques inhalés et même essentiellement sur les aérosols en général chez le patient souvent ventilation mécanique. Et donc, il y a par exemple une revue de littérature dans le Journal of Aerosol Medicine et Pulmonary Drug Delivery de 2012 qui fait très bien le point sur cette question-là. Et enfin, un papier plus récent de Jonathan Duguernier, qui est un jeune membre de la SRLF qui a récemment publié en 2016 dans Annals of Intensive Care un papier sur le dépôt pulmonaire scintigraphique d'aérosol chez des patients ventilés en comparant deux modes ventilatoires, pour avoir un papier un peu plus technique et récent.
Eh bien, merci beaucoup. Et comme d'habitude, pour finir cette question bonus, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui voudrait s'orienter vers notre belle filière MIR ?
Eh bien, ma réponse est très simple. Bienvenue, excellent choix. Si le moindre doute persiste, je suis personnellement à disposition pour en discuter. Il ne faut vraiment pas hésiter à contacter qui que ce soit parmi le groupe de l'ensemble des enseignants et on est à disposition. C'est un très bon choix, c'est un métier passionnant qui évolue, qui change chaque jour, qui est parfois imprévisible. C'est des patients très différents. On s'ennuie jamais et on est une grande famille très, très accueillante, très sympa et dans laquelle on prend beaucoup de plaisir à travailler pour les patients, pour la recherche et tout ce qui va avec. Donc ça ne peut être qu'un bon choix et ça, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui aient regretté de venir faire de la réanimation. J'en connais aucun, donc ça ne peut être qu'un bon choix. Bienvenue et à très bientôt.